Tamar, on a la page 24, chapitre 4, Mishnah 2, Barishona. Donc dans la Mishnah précédente, on a appris que si le mari a envoyé un guet à sa femme, par un shliar, par un émissaire, pour lui amener donc par UPS, hein, pour lui envoyer ce guet, on a expliqué que tant que le guet n'est pas arrivé dans les mains de la femme, le mari peut toujours l'annuler. Donc il peut ou bien rattraper le shliar et lui dire « ta mission est annulée, donc tu annules le courrier », ou bien il peut aller voir la femme et lui dire « le guet que tu vas recevoir, il n'est pas valable ». Même si elle va le recevoir après par la suite, UPS va venir, ça ne vaut rien. D'accord ? Si c'est nul et non avenu, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi ? Puisque dans le guet, on a dit qu'il y a plusieurs techniques pour l'annuler, pour éviter que un homme et une femme se divorcent.
Alors, c'est toujours par l'intermédiaire de messager.
Non,
il pas peut toujours. Pas prendre le téléphone lui et dire « voilà, l'acte de divorce ».
Il peut lui
aussi. Il n'y a pas de témoin.
Il peut, il n'y a pas besoin de témoin. Il peut lui aussi le faire.
Il prend le téléphone, il dit voilà, l'acte de divorce que va recevoir
c'est
par
bon aussi.
Moshé.
Il sera pas bon. C'est bon. À l'époque, on n'a pas le téléphone, c'est ça que la Michelle ne l'entendra pas.
Bah, pareil il peut habiter la même maison. Quoi.
Pareil. Il peut appeler par téléphone et dire le guet que tu vas recevoir ne sera pas bon. Et le guet ne sera pas bon. Dès qu'il y a une petite faille dans le guet, tout de suite on annule tout.
Il faut guetter le guet. Hein.
Donc, maintenant qu'on continue dans la Mishnah Bet, Barishona. Ah, il y a aussi Beddin, mais ma com à faire, on me va être l'eau. À l'époque, écoutez bien ce qu'on a expliqué. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour annuler le guet, le mari, il faut obligatoirement, soit qu'il rattrape la femme, soit qu'il rattrape le coursier. Mais un des deux, il faut les rattraper. On peut pas, comme ça, annuler de chez soi à la maison. Il faut qu'il rattrape soit la femme, soit le coursier, de manière à ce qu'on soit sûr, en d'autres termes, que la femme est au courant que son guet a été annulé. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, le mari pouvait former un Beddin dans n'importe quel endroit. Par exemple, il était à New York, il envoie le guet de New York à Paris, il va chez un autre Beddin à New York, il dit voilà, devant vous je dis que le guet que j'ai envoyé il est annulé. Et le guet est annulé. Puisque là, en parlant, le guet est annulé, c'est fini. Mais on a arrêté de faire ça. Bien entendu pourquoi. Itkin. Donc un Beddin c'était de deux ou de trois personnes, comme la Gemara le dit. Itkin, Rabban Gamliel Azaken, chez le Yosimken. Rabban Gamliel l'ancien a fait une takana, a instauré. Qu'on ne fasse plus comme ça. On ne peut plus faire les choses de cette manière, qu'un mari, pour annuler le guet de sa femme, il le fait à distance, comme ça, sans que la femme soit au courant, sans même rejoindre la femme ou le coursier. Pourquoi ? Parce que la femme risque de ne jamais être au courant que son guet est annulé. Et elle va se remarier et les enfants. Et qu'est-ce qui va devenir des enfants qu'elle aura ? Donc, Mipne Tikkun Haolam, ça veut dire pour le Tikkun du monde. Donc là, il y a plusieurs explications dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Mipne Tikkun Haolam. Première explication, ça veut dire pour ne pas arriver au problème de Mamzerim, comme ce que j'ai expliqué.
Mais là, tant qu'elle l'a pas reçu, elle n'est pas divorcée.
Oui, mais le problème, il est que maintenant, peut-être que la femme va le recevoir. Si moi, je ne rattrape ni le... Imaginez qu'il y a un mari qui divorce sa femme. D'accord ? Il envoie un guet par un coursier de New York à Paris.
Ouais.
Entre-temps, il va ni rattrape le coursier, ni prévient sa femme. Il va chez un autre Beddin, il leur dit, le guet que j'ai envoyé, il est annulé. Bon, donc, alachiquement parlant, normalement, il a annulé le guet. Le problème, c'est quoi ? C'est que maintenant que le guet il est annulé, ni le coursier est au courant, ni la femme est au courant. Donc la femme, elle dit, bah attends, vous croyez que la femme, elle va aller vérifier est-ce que vraiment mon mari m'a divorcé ? Pour elle, c'est fini, je suis contente, j'ai reçu mon guet, tant mieux, c'est fini, je le connais plus maintenant. Et elle risque de se remarier, et les mamzerim, les enfants qui vont sortir de cette union-là, ce seront des mamzerim.
D'accord ? Pourquoi Beddin, il n'attend pas que ce soit la femme qui est en possession ?
Voilà, justement, c'est pour ça qu'on nous a dit qu'à l'argument parlant, c'est valable. Alors, comment parlant, je crois que même dans le droit français, d'accord, dans le droit français, pour annuler un contrat, on n'est pas obligé de l'annuler dans le même endroit, on n'est pas obligé de faire opposition dans le même endroit qu'on a fait le contrat. On peut faire opposition dans n'importe quelle préfecture, dans n'importe quelle...
Il faut
et ça marche, c'est valable.
Mais
bien d'accord.
Il faut l'accord de l'intéressé.
Alors justement, non.
Pour pouvoir valider.
Parce que le guet n'a pas encore été donné.
La logique des choses.
Si le guet n'a pas encore été donné, d'accord. Tant que le guet n'a pas été donné, je peux l'annuler. Je fais opposition. J'ai pas besoin de faire opposition dans ma banque. Je fais opposition dans n'importe quelle préfecture. C'est valable aussi en droit français. Donc à l'époque, c'était valable. C'est toujours valable en vérité. Mais on a annulé parce que on a deux problèmes. Premier problème qu'on a, c'est le problème des mamzerim qui risque de venir à cause de ça. Parce que peut-être la femme sera jamais au courant que son guet n'était pas bon. Elle va recevoir par un courtier. Elle va dire bon, je suis divorcé, c'est fini. Et deuxièmement, explique la Gemara, le deuxième problème qu'on a, c'est ce qu'on appelle la takanat agunot. C'est quoi takanat agunot? Takanat agunot, ça veut dire que on estime que de manière générale, faire sortir un guet à un mari, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut le... En général, le mari, il veut pas divorcer. D'accord ? Faire sortir un guet à un mari, c'est pas facile. Donc déjà, on a déjà réussi à lui faire sortir le guet. Si en plus après tu lui donnes la possibilité de pouvoir faire opposition sur le guet très facilement, alors on va plus en finir et la femme va rester à Gouna. Quand on dit à Gouna, ça veut dire qu'elle va rester bloquée, elle ne pourra jamais se remarier. C'est pour ça que, il y en a qui expliquent que c'est la raison pour laquelle Rabban Gamliel a bloqué cette procédure. Il a dit que la seule manière d'annuler un guet, qui a déjà été envoyé mais qui n'a pas encore été reçu par la femme, c'est soit de rattraper la femme, d'aller chez la femme et lui dire le guet que tu vas recevoir, il sera pas valable, d'accord, je l'annulais, ou bien de rattraper le coursier. Mais si on n'a rattrapé ni le coursier ni la femme, c'est pas bon.
Et il lui fallait des témoins à ce moment-là quand il annulait
non,
le guet
pas besoin.
La femme.
Non, pas besoin. C'est opposition. C'est opposition, pas besoin.
Donc, il est trop sur sa bonne foi après,
oui,
quand il dit au badin.
Le guet n'a pas encore été donné encore.
Ouais.
Ça c'est un premier point. Ensuite, on continue la Mishnah. Barishona, Aya Meshane Shmo Ushma, Shem Hiro, Veshem Ira. À l'époque, dans le guet, le mari écrivait son nom et le nom de sa femme, enfin le nom de sa femme qui va divorcer, et le nom de leur ville, tels qu'ils sont écrits à l'endroit où on écrit le guet. D'accord? Bien que leur nom a été changé, et que dans l'endroit où ils habitent, on les appelle par d'autres noms, par exemple. D'accord? Si vous avez quelqu'un qui habite à Paris, et à Paris, on l'appelle Yaakov. Mais quand il va à New York, tout le monde l'appelle Coco. Yaakov, c'est Coco. D'accord? On l'appelle, ou bien Yankel, c'est Ashkenaz. D'accord? On l'appelle Yankel. Très bien. Bon. Donc, il va là-bas. Il va à New York et on lui fait le guet. Donc, il fait le guet. Il dit, voilà, moi, Coco, d'accord, Yaakov, Yankel, je divorce un telle femme. Maintenant, il s'appelle pas comme ça. C'est vrai qu'à New York, on l'appelle comme ça. Mais à Paris, on l'appelle pas comme ça. Le problème qu'on a avec ça, c'est quoi? C'est que même si à l'endroit où on a écrit le guet, tout le monde sait c'est qui Yaakov, on sait très bien c'est qui ce Coco, mais on ne sait pas c'est qui, quand ça va arriver à Paris, il va falloir quelqu'un qui nous explique. Alors, halakhiquement parlant, c'est kasher, puisque on se base sur l'endroit dans lequel est écrit le guet. Mais pareil, d'accord, Rabban Gamliel a annulé ça. Donc, c'est la même chose pour le nom de la ville. On peut avoir une ville qui, dans un endroit, on l'appelle dans un nom, et dans l'autre ville, on l'appelle dans un autre nom. Je sais pas, on peut avoir des exemples comme ça, de villes que, voilà, par exemple, je dis, quelqu'un qui est à Jérusalem, il dit, Jéru. D'accord, Yaakov de Jéru. Tu viens à un Français, tu lui dis Jéru, Français, peut-être c'est pas ce que c'est. Jéru, ici, on appelle Jérusalem. Donc, à l'époque, on se basait sur l'endroit dans lequel on écrivait le guet. Tant que dans l'endroit où on écrit le guet, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est bon, c'est kasher. Veitkin, Rabban Gamliel Azaken, Rabban Gamliel l'Ancien. Ah, donc a fait une takana, a instauré. Cheye Kotev, qu'il faut écrire dans le guet, Ishploni, Vechol Shem Sheyeshlo. Il faut écrire dans le guet un tel et tout nom qu'il peut avoir. Comme ça, on ne peut pas dire après, ah non, moi je ne m'appelle pas comme ça, moi j'avais un autre nom. On doit écrire Ishploni, Vechol Shem Sheyeshlo. D'abord, il faut écrire tous les noms qu'on connaît. D'accord? Tous les noms qu'on connaît, c'est-à-dire s'il a trois prénoms, tu écris les trois prénoms.
C'est rentré dans le droit français.
Oui, alors ça, donc ça c'est écrit, c'est ça, maintenant dans tous les ketuvah, dans tous les guets, toujours on écrit. On écrit le nom, et après on dit en araméen, et tout autre nom qu'il peut avoir. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas de problème. Parce que par exemple, s'il a un surnom, il peut se dire, ah non, moi c'est pas moi, moi j'avais un surnom aussi. Donc c'est pour ça qu'on rajoute la mention, un tel et tout nom qu'il peut avoir. Je crois, comme il dit, je crois que dans le droit français, maintenant, dans les contrats importants...
Un tel, des fois il y a 3, 4, 5, ouais. 6 noms.
Mais est-ce qu'après il y a une mention qui dit, et tout autre nom qu'il peut avoir?
Non, ah, il y a vraiment voilà. Dit, parce ça, qu'on sort tous les noms.
Ça c'est chaud. Oui, mais peut-être il y a un nom qu'on connaît pas. Ça c'est chez nous. D'accord. Donc c'est parce que c'est pour le guet.
Mais
hein.
Ça ne renseigne pas. Et tous les noms qui peuvent.
Non, ça veut dire c'est pour. C'est, à quoi ça sert? Ça sert à ne pas pouvoir invalider le guet par la suite. Il est verrouillé. Ishaplunit v'chalchum sheeshla mipne tikkun haolam. C'est quoi tikkun haolam? C'est-à-dire qu'en vérité la femme est divorcée. Même si on n'a pas écrit tous les noms sur le guet, la femme est divorcée. Ce qui compte, c'est qu'il y a au moins un nom du mari et un nom de la femme. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'après, les gens, ils risquent de parler. Le mari, il risque de dire, oui, vous savez, ce guet-là, c'est pas le mien, moi, je l'ai jamais donné. La preuve, moi, j'ai trois prénoms, sur le guet, il y a un seul prénom. Et donc, les gens, ils risquent de parler, et on va dire que cette femme, en vérité, a jamais été divorcée, et les gens vont dire, oui, les enfants de cette femme, peut-être qu'ils sont mamzerim, hein, on sait pas ce qui s'est passé. Pour éviter ces problèmes-là, on a verrouillé le guet, on a dit, tel homme et tout autre nom qu'il peut avoir, telle femme et tout autre nom qu'il peut avoir. Comme ça, il n'y a rien à dire, parce que ce qui compte halakhiquement parlant, c'est qu'il y a au moins un nom, et là on a verrouillé pour éviter que les personnes parlent en mal. D'accord ? Alors, puisqu'on a déjà parlé des takanot que Rabban Gamliel, donc des choses que Rabban Gamliel a instaurées, pour ce qu'on appelle tikkun haolam, ça veut dire pour arranger le monde, pour éviter les problèmes qui pourraient venir, problèmes à cause des gens malhonnêtes, etc. Donc la Mishnah Guimel, la Mishnah numéro 3, va continuer dans la même lancée, en nous disant, d'accord, d'autres takanot que Rabban Gamliel a fait, dans le droit en général, ça n'aura pas forcément de rapport avec le divorce, mais ça aura un rapport avec des choses qui sont dans la vie de tous les jours. En almana nifraat minirse yotomim et la bijvoua. Alors, savoir la chose suivante, c'est qu'une almana, une veuve, elle ne peut prendre sa ketouba. C'est-à-dire que, par exemple, le mari, d'accord, il a fait un testament, et ici, dans son testament, il a dit, je donne tous mes biens à mes enfants. Il n'a rien donné à sa femme. Maintenant, la femme, elle a sa ketouba, quoi qu'il en soit. La ketouba, le mari s'est engagé sur une somme. Donc cette somme-là, la veuve doit aller la chercher chez les yotomim, chez les orphelins. Bien, c'est possible que dans le testament, le mari a donné à la femme moins que la ketouva. Donc chez qui elle va récupérer la ketouva, la femme? Chez l'héritage. Pourquoi? Parce que la femme, enfin, comment on dit, on appelle ça kadmas routé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme, elle était prioritaire. Pourquoi elle est prioritaire? Parce que elle est venue avant les enfants. Donc puisqu'elle est venue avant les enfants, tous les biens du mari sont engagés pour payer la ketouba de la femme. Donc même après, quand le mari va avoir des biens, etc., mais tous ces biens étaient déjà engagés pour payer la ketouba de la femme. Hein, c'est comme Kadma Tanate, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent aussi, hein, dans les histoires des créanciers. D'ailleurs, on a ça aussi dans le droit français. Oui. D'accord, quand on vient se servir, il y a des gens qui sont prioritaires. Alors, qui est prioritaire? En général, sont prioritaires celui qui a le contrat le plus tôt possible. Plus tu as un contrat qui est le plus tôt possible, antérieur, et plus c'est toi qui es prioritaire. Donc la femme ici sera toujours antérieure par rapport aux enfants. D'accord, puisque, hein,
à moi qui sors marié.
On est bien d'accord. Bon. Alors, donc, le problème c'est quoi? C'est que maintenant, la femme, les enfants, ils peuvent dire à la femme, peut-être qu'ils n'aiment pas trop leur mère, ils peuvent dire à la femme, ils disent, mais peut-être que papa t'a déjà donné une partie de la ketouba. Parce que, alors, comment c'est possible que le mari a déjà donné une partie de la ketouba? Il faut savoir que c'était une pratique qui était assez fréquente à l'époque. Il y avait des femmes, des fois, qui avaient besoin d'un peu d'argent de poche. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles vendaient la ketouba. Parce que la ketouba, c'est la seule chose qui appartient à la femme pendant le mariage. Tout le reste, normalement, ça ne lui appartient pas. À part s'il y a eu un accord.
Même son salaire?
D'accord? Voilà. Donc le salaire, on peut considérer ça comme un accord. La seule chose que la femme peut dire, elle peut dire, je ne te donne pas ma paye, mais d'un autre côté, tu n'as pas besoin de me nourrir. Mais si le mari doit continuer à la nourrir, doit continuer, etc., à tout le reste, dans ce cas-là, toute la paye de la femme appartient au mari. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais expliquer? J'ai expliqué que la ketouba, c'est la seule chose qui appartient à la femme. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire la femme? C'était une pratique fréquente à l'époque. La femme vend sa ketouba. Ça veut dire quoi? Elle vend sa ketouba. Par exemple, si sur la ketouba, il y a écrit 20 000 euros. D'accord? Elle la vend sa ketouba à quelqu'un, elle dit, voilà, vous me donnez 2 000 euros. D'accord? Et moi, je vous donne la ketouba, comme si un jour je divorce, vous récupérez 20 000 euros. Si je divorce pas, ben, vous avez perdu 2000 euros. Donc après, il y avait des gens qui analysaient, est-ce que le couple va bien, est-ce qu'il risque de divorcer, est-ce qu'il risque pas de divorcer? Ben oui, parce que ça avait une valeur. Bon.
Il y avait pas quelqu'un pour l'enjeter à
l'Inara? Pour l'enjeter à l'Inara. Divorce un peu. Bon, donc maintenant, c'est quoi le problème? C'est que les enfants, ils disent à leur mère, peut-être que papa en vérité t'a déjà donné au moins une partie de ta ketouba, ou peut-être que le ketouba, tu l'as déjà vendu. On va savoir ce qui s'est passé. Peut-être même que papa t'a déjà donné une partie, je sais pas ce qui s'est passé.
Elle peut leur prouver ça.
Alors, voilà. Elle peut pas prouver.
Elle a la ketouba.
Elle a la ketouba peut-être, mais peut-être que le mari l'a donné, et que bon, comme il aimait sa femme, il a dit, bon, la ketouba, je la laisse, hein, on se fait confiance entre nous. Et la femme profite des situations, elle veut récupérer l'argent des orphelins. Peut-être qu'elle les a pas, ou je sais pas, bon. Alors.
Une bonne ambiance, non?
Pas de blague. Donc, en almana mifrat, mirse yetomim, et la bijoua, un soré Rabban Gamliel, que la veuve ne peut se faire rembourser. Comment il traduit Nifrat ici?
Ne peut être payée.
Payée, oui. Bon, elle peut être payée, donc elle peut se faire rembourser. Minirse yetomim, des biens, des orphelins, et la bijoua seulement par un serment. C'est-à-dire, elle doit jurer qu'elle n'a rien reçu de la ketouba. Si elle ne veut pas jurer, elle ne recevra rien du tout. Elle doit jurer, quand on dit jurer, c'est-à-dire devant un Sefer Torah, hein, c'est pas de la blague. Va au Bet-In, devant un Sefer Torah, elle va jurer qu'elle n'a rien reçu. Pourquoi? Toujours, parce que on a peur que la femme peut mentir, et dans ce cas-là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, on dit que les gens n'ont pas peur de mentir, mais par contre, dès qu'il s'agit de jurer au Sefer Torah, on le voit aujourd'hui ça, dès qu'il s'agit de jurer au Sefer Torah, les gens ont peur. Les gens ont peur, jurent au Sefer Torah, on a peur, on joue pas avec le Sefer Torah. Maintenant, sachez qu'il y a eu une période, à l'époque de la Gemara, dans laquelle on dit que les gens n'avaient plus peur de jurer sur le Sefer Torah. Donc même ça, on a dû annuler. Parce que du coup, les gens faisaient des faux serments sur le Sefer Torah. Mais de manière générale, même encore, ça, encore aujourd'hui, on voit que les gens dans le Sefer Torah, ils ont peur. Donc, c'est pour ça que la veuve, avant de prendre les biens des orphelins, puisqu'on peut la croire que sur sa parole, hein, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout, elle devra jurer sur un Sefer Torah qu'elle n'a rien pris encore de sa Ketuba. Nimneu, d'accord, Mile Hashbia. Alors, Itkin Rabban Gamliel Azaken, Sheite'e no deret laetomim, kolma sheirtu. D'accord? Dit comme ça. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, on a arrêté de faire jurer la veuve. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. D'accord? Parce que le problème qu'on avait, c'est que la femme, même de faire un faux serment, elle n'avait pas peur. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi elle n'avait pas peur. Parce que la femme, c'était la mère des enfants. Et la mère des enfants, elle se dit, c'est vrai que mon mari m'a déjà donné un petit peu, mais je suis leur mère. Avec tout ce que je leur ai donné, ils me doivent. Donc dans sa tête, elle dit, j'ai pas vraiment fait un faux serment quand j'ai dit que j'ai rien reçu. Parce que bon, ils me doivent, c'est mes enfants, ils doivent me donner, ils doivent m'aider. Donc dans sa tête, psychologiquement, elle se rassure. Et donc les Khamis se sont rendus compte que la femme psychologiquement était tranquille, et que bon, même si elle disait j'ai rien reçu, mais dans sa tête, elle disait j'ai rien reçu de...
Reçu, c'est pour torcher voilà.
Je me suis occupé des enfants, je me suis occupé de vous. Donc du coup, Nimneum il HBA, du coup, ils ont arrêté de faire jurer la femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel Azaken? Il a instauré Chete no deret leyetomim kol mashirtsu ve govak tuvata. Là on dit qu'il y a une chose que les gens ont encore plus peur, d'accord, que le serment. C'est quoi? C'est les nedarim, c'est les vœux. Ça on le voit encore chez les personnes âgées aujourd'hui, chez les jeunes on ne retrouve plus tellement, mais ils ont très peur du neder. Quand on fait un éder,
un éder. Mais il est sous la contrainte là. Est-ce que c'est valable un éder sous la contrainte?
Oui, c'est un éder. Donc les gens ont très peur du éder. Et je pense qu'aujourd'hui encore c'est, enfin les gens font plus tellement d'éder aujourd'hui, mais à l'époque les gens quand ils faisaient des éder, en tout cas ils avaient très peur.
Ils disent même pas bien.
Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel Azaken? Il a instauré que la femme, parce qu'on peut la croire que sur parole, peut-être qu'elle ment, il a instauré que la femme, que la femme va jurer aux orphelins, d'accord, tout ce qu'ils veulent, et elle encaisse la ketouva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, elle leur dit, si je vous ai menti et que j'ai déjà pris de ma ketouva, j'aurais plus le droit de manger de la viande, à vie. Neder. Et après, on lui donne de la viande à manger. Et on voit ce qui se passe. Si la femme dit non, j'ai pas faim, j'ai pas de viande.
Si elle se remarie, le type il lui enlève son néder.
Non, il ne faut pas lui enlever les néders d'avant le mariage. Il ne faut pas lui enlever. Et ça, les néders, elle a peur. On lui donne à manger, on dit madame, mangez de la viande maintenant. Attention, elle a fait un néder. Elle a dit si j'avais déjà pris une partie de la ketouba, je n'ai pas le droit de manger de la viande. Et elle peut faire les orphelins peuvent la faire jurer ce qu'ils veulent. Pas de viande, pas porter de vêtements de couleur, ce qu'ils veulent. D'accord? Et après, on voit si la femme, elle a peur de son éder. Si elle n'a pas peur de son éder, ça veut dire qu'on peut être sûr qu'elle n'a pas pris sa ketouba. Ça, c'est la technique de Rabban Gamliel. Donc, c'est plus fort qu'une joua. Aedim, Chotmin Alaget, Nipne Tikkun Haolam. Autre chose que Rabban Gamliel a instauré, c'est que les témoins, j'arrive à lire, c'est un peu petit, hein. Aedim, Chotmin Alaget, Nipne Tikkun Haolam, c'est que les témoins doivent signer sur le guet, Nipne Tikkun Haolam. Là, c'est le même problème. Normalement, dans le guet, les témoins n'ont pas besoin de signer. Alors, il faut savoir que ça, j'ai expliqué il y a quelques semaines, il y a une marque locale dans la Gemara. Quels sont les témoins les plus importants dans le guet? Est-ce que c'est les témoins qui sont témoins de la transmission du guet, parce qu'ils ont vu, ou c'est les signataires du guet, les témoins qui ont signé sur le guet? C'est une marque locale. Il y a un avis qui s'appelle Rabbi Elazar, d'accord, qui dit que aider Messira Carté. Il dit que les témoins les plus importants, c'est les témoins de la transmission. La signature, ça ne nous dérange pas. Donc, à la limite, selon Rabbi Elazar, il n'y a même pas besoin de signature. Et donc du coup, on avait des communautés dans lesquelles il n'y avait pas de signature sur le guet. Puisque ce qui comptait, c'est les témoins qui ont vu. Mais le problème, c'est que ces témoins-là, qui ont vu, ils peuvent mourir. Et s'ils vont mourir après, et qu'on va devoir enquêter sur le guet, il va avoir on dit, oh le guet, on ne sait pas sûr que c'est un bon guet. On ne peut plus enquêter, c'est fini. C'est pour ça que Rabban Gamliel a instauré que même les communautés qui suivaient la vie de Rabbi El-Hazar, selon lesquelles il n'y a pas besoin de signature, normalement, puisque ce qui compte, c'est les témoins de la transmission, il a instauré que même selon les communautés qui suivent la vie de Rabbi Elazar, ils devront quand même, les témoins les témoins donc, qui étaient témoins donc, de la transmission devront signer sur le guet, pour éviter ce genre de problème par la suite, qu'on invalide le guet, et que va savoir ce qui se passait avec les enfants, Mamzerim, etc. Et je finis la Mishnah. Hillel, Itkin Prousboul, donc là on n'est plus avec Rabban Gamliel, mais on est avec Hillel. Il a instauré le Prousboul, on va expliquer ce que c'est tout de suite, mais Pnetikuna Olam. Alors c'est quoi le Prousboul? Le Prousboul, on le fait tous les 7 ans. Le Prousboul, ça existe? Oui. C'est quoi le Prousboul? Écoutez bien ce que c'est le Prousboul. Le Prousboul, c'est le problème qu'on a, que vous savez que selon la Torah, normalement, à la 7e année, l'année de la Shemitah, toutes les dettes sautent. Toutes les dettes sautent. D'accord? Le problème qu'on a, c'est que avec le temps, les gens ont arrêté de prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que il y avait des, parce que ceux qui doivent de l'argent,
les débiteurs,
d'accord? Ils se permettaient de, ils s'arrangeaient pour faire traîner la dette. Jusqu'à que ça arrive à la Shemitah, et dès que ça arrive à la Shemitah, la dette elle saute. Donc du coup, les gens ne prêtaient plus. Eh oui. Bien que la Torah nous dit que il ne faut pas que tu t'empêches de prêter à cause de ça, etc. Mais les gens, ils s'arrangeaient pour donner des excuses pour dire je peux pas te prêter. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Il a trouvé une technique pour relancer le prêt chez le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré le Prousboul. Prousboul, c'est un mot qui vient du grec, qui vient du mot prosboulisti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on transmet. Ça veut dire que on transmet la dette au Beddin. Et là, il y a un principe comme ça. C'est que les dettes qui sautent à la 7e année, c'est uniquement les dettes personnelles. Mais toutes les dettes communautaires, alors quelqu'un il doit à la synagogue, il dit bon j'attends la 7e année, je l'ai fait traîner 7 ans, et après ça saute, ça marche pas. Ou bien les dettes qu'on doit au Beit Din, d'accord, par exemple aux impôts, ou qu'on doit à l'État, ou qu'on doit à qui vous voulez, ça ne saute jamais. Alors qu'est-ce qu'il a instauré Hillel? Il a instauré ce qu'on appelle le Prousboul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a instauré que au début et à la fin de la 7e année, donc on le fait deux fois, au moins une fois, on transmet nos dettes au Beit Din. Qu'est-ce qu'on dit dans le Prousboul? C'est une phrase qu'on dit, d'accord, on l'a dit d'ailleurs, c'était l'année de la Shemitah l'année dernière, on l'a dit. On dit que on prend un Beit Din de 3 ou de 10 personnes, et on leur dit « Areni moser bifnechem kol chov sheyeshli sheyegbe otam kol zman sheyirte ». Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire je vous transmets toute dette que j'ai, donc il y a un Beit Din de 3 personnes, pas forcément des rabbins, hein. 3 personnes, un Beit Din. Je dis, vous êtes un Beit Din, vous êtes force de loi, donc je vous transmets toutes les dettes que j'ai, d'accord? Et vous me donnez le droit de les encaisser quand je voudrais. Ça veut dire que maintenant, j'ai transmis la gestion de ma dette au Beit Din. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai transmis la gestion de ma dette au Beit Din. Alors c'est un peu une technique, hein, la créance. Attention, je ne transmets pas, c'est pas que je leur donne l'argent au Beit Din. Je transmets la gestion.
C'est vous qui pouvez me récupérer ce
ça veut dire que c'est vous qui avez la responsabilité de récupérer mon argent. Oui.
Et qu'est-ce qu'il fait le Beit Din alors? Mais il va actionner
non.
Le débiteur?
Ça veut dire que moi, après, quand je vais aller chercher mon argent,
ouais.
C'est comme si que j'étais envoyé par le Beit Din.
Et donc, il est obligé de payer?
Eh oui, il est obligé de payer.
La souveraineté surtout a été faite pour les emprunteurs plus que pour les prêteurs.
C'est sûr. Mais les prêteurs ont arrêté de prêter, voilà. Donc ça, c'est encore une autre takana que Hillel l'Ancien a fait pour éviter que... Parce que les gens, ça a arrêté de se prêter. D'accord? Donc, on arrive à un problème parce que c'est une interdiction de la Torah de s'empêcher de prêter à cause de ça. Donc, il a instauré ça. Et depuis, Baruch HaShem, tout va bien. Ça arrête ici.